Voilà, on a réussi à mettre tout le monde. C'est très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette soirée organisée dans le cadre de la chaire Jean Rodin au Centre Sèvres. Bienvenue en particulier aux membres du réseau de fraternité et proximité des paroisses, de la paroisse de Poissy, et puis je crois aussi des paroisses autour, ils nous expliqueront ça après, et qui ont très gentiment accepté de venir partager leur expérience avec vous. Puis je sais qu'il y a d'autres membres aussi de la paroisse qui doivent être là. Nous les présenterons un peu plus longuement dans un instant. Donc je suis le père Grégoire Catin, j'enseigne la théologie morale sociale ici, depuis le mois de septembre, j'ai pris la succession du père Alain Thomasset, que je remercie, qui est ici comme titulaire de la chaire. Et je le remercie beaucoup parce que c'est lui qui a eu l'idée de la soirée et qui l'a déjà pas mal organisée. Moi, je suis arrivé, les choses étaient à peu près en place. Puis je remercie aussi, je salue Monseigneur Descubes, le président de la Fondation Jean Rodin, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Alors, qu'est-ce que la chaire Jean Rodin? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, elle porte donc le nom de Monseigneur Rodin, qui fonda le Secours catholique, et de son vivant, il avait cherché à promouvoir, en plus de tout ce qu'il a fait pour en fondant le Secours catholique, mais il voulait promouvoir l'étude de ce qu'il appelait la théologie de la charité, pensant que se tenait là une clé fondamentale pour la pratique, pour une pratique plus généreuse et plus ordonnée. Et déjà, de son vivant, il avait embauché un certain nombre de théologiens, dont l'abbé Jean Colson, figure emblématique de cette réflexion. Puis il avait constitué une bibliothèque, une collection de livres, etc. Et après sa mort, en 1977, certains de ses amis ont créé donc cette fondation qui porte son nom, pour continuer à porter cette préoccupation. Et la fondation organise tous les deux ans un colloque, c'est souvent à Lourdes, je crois que même ça a toujours été à Lourdes jusqu'à maintenant. Non, pas tout le temps. Voilà. Et puis, la Fondation a créé des chaires d'études dans un certain nombre d'universités, dont le Centre Sèvres. On peut aussi signaler, et c'est aussi une invitation pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, la Fondation elle a son site, qui est très bien fait, un site web, mais elle a aussi créé un site qui s'appelle « Servons la fraternité », un peu dans l'élan de Diaconia, site avec des partages de paroles et d'expériences qui fait résonner notamment la voix des personnes fragiles ou en grande précarité. Voilà, un site très riche que je vous invite à aller découvrir. Servons la fraternité. Alors ici, au Centre Sèvres, la chaire Jean Rodin répond à cette invitation de promouvoir une réflexion théologique sur la charité. Et elle le fait, grosso modo, par deux moyens. D'abord, des cours et des séminaires. Je signale, on a dans la maison deux séminaires de recherche qui s'inscrivent bien dans cette dynamique-là. L'un qui porte sur l'option préférentielle pour les pauvres et les apports du père Joseph Wrzesinski. Et puis, un autre séminaire de recherche qui a commencé cette année et qui essaye de réfléchir sur le lien entre clameur des pauvres et clameur de la terre. Peut-être ça fait résonner chez certains d'entre vous des mots du pape François dans Laudato Si. L'an dernier, à la soirée qui avait lieu à la même époque, c'était la figure du père Joseph Wrzesinski qui nous avait réunis, peut-être un certain nombre d'entre vous et d'autres. Et cette année, nous nous tournons vers une expérience concrète dans la vie d'une paroisse. Une expérience qui, bien que largement antérieure à la démarche qu'a marqué l'Église de France en 2013 de Diaconia, en fait s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Avec Diaconia, l'Église a cherché à vivre plus pleinement et plus visiblement la dimension de la diaconie, c'est-à-dire du service, de la solidarité, de la fraternité, dimension de diaconie qui est au cœur de la mission de l'Église. On peut se rappeler la manière dont c'est présenté sur le site de Diaconia. L'objectif premier de la démarche de Diaconia est d'appeler les communautés à vivre davantage dans la réciprocité, la fraternité et l'espérance avec les personnes en situation de fragilité, proches ou lointaines. Elle est aussi, la démarche de Diaconia, l'occasion de redire combien le service du frère est une manière de vivre sa foi chrétienne à la suite du Christ. Donc il y a eu l'événement phare en 2013 du rassemblement à Lourdes, puis c'était déjà le fruit d'un processus de plusieurs années. Mais ce qui s'y est vécu, notamment la grande expérience de fraternité dans la diversité, une expérience qui donnait la place à beaucoup de personnes différentes, et notamment de personnes qui ont pu être très blessées dans leur vie ou qui sont blessées dans notre société. Mais cette expérience, finalement, c'était qu'un point de départ. Et maintenant, il s'agit de continuer à vivre de cet esprit-là. La question rebondit pour nos communautés aujourd'hui, nos communautés paroissiales, peut-être d'autres communautés. Comment faire de nos églises des signes de fraternité qui rayonnent pleinement de l'amour du prochain, en particulier des plus fragiles? Comment la solidarité vécue concrètement peut-elle être facteur de renouveau pour nos communautés, pour nos paroisses? Comment faire résonner concrètement la joie de l'Évangile, selon l'invitation du pape François, cette joie de l'Évangile, comment la faire résonner par une fraternité véritable qui fait des périphéries, finalement, le nouveau centre de gravité de la vie ecclésiale? L'expérience qui va nous être partagée ce soir va nous permettre, je pense, d'avancer sur ces questions. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Étienne Grieux, qui va nous présenter les membres du réseau qui sont là devant vous, et puis il va animer une conversation pendant probablement 40-45 minutes. Et puis je reprendrai un peu la parole pour faire une courte reprise, faire résonner quelques éléments plus théologique à partir de ce que nous aurons entendu. Et puis après, nous aurons largement le temps, dans la deuxième partie de la séance, pour poser des questions, pour faire part aussi de nos propres expériences. Peut-être que ce qu'on va entendre là va faire aussi écho à des choses qui se font ailleurs. Et nous pourrons prendre le temps d'échanger tout cela. Puis vous avez remarqué à l'entrée que ce petit livre, « Vers des paroisses plus fraternelles », est en vente. Alors simplement, le libraire, il vend en même temps des livres ici, puis des livres en salle 5, parce qu'il y a une autre soirée. Donc comme il n'a pas encore le don d'ubiquité, il vend d'abord là-bas et il reviendra chez nous. Donc à la fin de la séance, quand nous on terminera vers 21h15, 21h30, normalement ils seront là, il sera là et vous pourrez acheter ce petit livre. « Vers des paroisses plus fraternelles », qui reprend en fait deux expériences. L'expérience dont on va parler ce soir, et puis une expérience dans une paroisse au sud de Toulouse. Et donc c'est Étienne Grieux qui est présent avec nous ce soir, et puis Vincent Lassève, un autre compagnon jésuite, qui n'est pas avec nous ce soir puisqu'il est en ce moment à Bogota, donc c'était un petit peu loin pour venir, qui partagent leurs expériences et puis qui après essayent d'en tirer quelques éléments, quelques réflexions théologiques. Et la préface est faite par Monseigneur Jean-Charles Décube qui est présent avec nous ce soir. Petit mot de présentation quand même d'Étienne, même si je pense qu'il est connu de la plupart d'entre vous. Voilà, Étienne est jésuite, il est le doyen de la faculté de théologie ici. Il habite en communauté à Saint-Denis, on habite dans la même communauté, au nord de Saint-Denis. Et il a été très impliqué dans la démarche de Diaconia. D'ailleurs, il avait écrit un petit livre à la sortie de Diaconia qui s'appelle « J'ai besoin de toi pour découvrir que Dieu c'est vrai » et qui reprend des réflexions à partir de ce qui s'est vécu à Diaconia. On se souvient aussi qu'il y a quelques années, il avait écrit un livre autour de la diaconie qui s'appelait « Un lien si fort » qui donnait aussi des éléments de réflexion importants. On peut dire qu'un de ses axes de recherche, peut-être l'axe de recherche majeur, est de faire de la théologie à partir des personnes les plus pauvres, les plus fragiles. Voilà, donc je suis heureux de lui donner la parole pour qu'il puisse nous présenter les membres du réseau de Poissy et puis animer un peu cette conversation.
Merci beaucoup Grégoire, bonsoir à vous. Et puis grand merci aux membres du réseau qui sont venus ce soir pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que ce réseau, comment ça marche et qu'est-ce que ça fait. Quel fruit ça porte, on pourrait dire, voilà. Alors, je vais commencer par présenter les 5 membres du réseau qui sont là, et puis après, j'interrogerai peut-être tour à tour l'un l'autre, voilà. Alors, d'abord, vous avez Pascal et Christine qui font partie du noyau, parce que dans ce réseau de Poissy, ce réseau de fraternité et de proximité, il y a un élément très important qui s'appelle le noyau. Voilà. Par ailleurs, le nom n'a pas été pris tout à fait au hasard parce que à Poissy, on fabrique aussi un petit alcool à partir des amandons d'abricot, je crois, c'est ça, non ? Hein ? Voilà. Et voilà. Et, Voilà. Donc, voilà. Pascal et puis Christine qui nous présenteront un petit peu, qui nous donneront un aperçu général sur qu'est-ce que c'est que ce réseau, quelle est son histoire et comment ça marche. Et puis, eh bien, Jean est le mari de Pascal. Il est diacre permanent, et il enseigne la philosophie. Il enseigne la philosophie quelque part près de Poissy, mais aussi ici dans cette maison au centre Sèvres. Voilà. Et donc on est très heureux de l'accueillir ce soir à un autre titre qu'habituellement. Hein. Et puis Christian et Victoria ont accepté aussi de venir pour nous partager la manière dont ils avaient vécu très concrètement quelque chose avec ce réseau. Donc ça nous aidera, je crois, aussi beaucoup pour comprendre qu'est-ce que ça peut représenter pour des personnes. Voilà. Hein. Voilà. Alors, je laisse la parole à Pascal et Christine. Et puis après, ben, moi, je la reprendrai pour vous, soit pour vous interrompre, pour vous poser telle ou telle autre question. Hein, voilà.
Bonsoir. Alors, moi, je voudrais commencer par deux petites choses. La première étant de remercier le Père Étienne, parce qu'en nous visitant l'année dernière pour venir voir ce que ça pouvait bien vouloir dire que ce réseau de fraternité à Poissy, en fait, c'est toujours un bonheur que d'avoir quelqu'un qui vous visite pour venir voir ce que vous faites, parce qu'il vous aide à prendre du recul. Il dit avec ses mots les merveilles que vous vivez, et ça c'est cadeau. C'est cadeau parce qu'en communication dans une paroisse, on s'y épuise. C'est compliqué la communication dans une paroisse. C'est compliqué aux gens du cru qui connaissent le réseau depuis 10 ans, 11 ans, de reparler encore du réseau, de qu'est-ce que c'est. Et avoir quelqu'un qui finalement, avec un regard neuf, le dit autrement, avec son expérience et ses mots à lui, c'est cadeau. Donc ça, merci de ça. La deuxième chose, c'est merci de votre indulgence, parce qu'on n'est pas du tout rodé à cet exercice. Vous nous impressionnez beaucoup. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Voilà. Donc, le réseau de Poissy, d'abord, peut-être que chacun vous dira comment il y est entré. Moi, en deux mots, comment j'y suis entrée, entrée en ronchonnant. Mon mari en faisait partie, et puis je trouvais qu'il y passait trop de temps. Je me disais, c'est complètement fou, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, enfin, et je trouvais que vraiment, il était trop souvent parti de la maison. Alors j'ai essayé de l'en dissuader une fois, deux fois, rien n'y a fait. Je me suis dit, il faut y entrer, quoi. Et alors donc, comme un petit chien peut-être au début pour suivre, et puis après autrement, j'ai envie de dire quand on y met la main, et voilà, et progressivement pour découvrir que c'était pas seulement du faire, mais que c'était vraiment un état d'esprit. Qu'on était invité à vivre les relations autrement, et c'est ce qui a tissé toute cette belle histoire pour moi, au moins. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'un réseau aujourd'hui ? Moi, quand je parle du réseau, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de beau, qui a été mis en place au début dans un questionnement de solidarité. Hein. La déléguée à la solidarité de l'époque a voulu réfléchir avec l'EAP et essayer de créer... Ils ne savaient pas trop, ils appelaient ça réseau de fraternité. Voilà, j'entendais le père Grégoire tout à l'heure parler des solidarités. C'est le mot par lequel le réseau s'est cherché un petit peu, mais pas si longtemps que ça finalement. C'était solidarité pour un réseau de fraternité. Et très très vite, vous verrez qu'en fait, solidarité, on n'en a plus parlé. On a parlé de réseau de fraternité et de proximité. Voilà. Alors, un réseau pour quoi faire ? C'est donc un réseau pour aller en sortie au départ, hein ? Un réseau pour aller vers la pauvreté, les pauvretés, hein, qui pouvaient donc se trouver en dehors de la communauté. Hein. Comment rejoindre, du coup, la pauvreté, très vite, est apparu, évidemment, par la solidarité. Hein, même si c'est pas le mot affiché en premier, tout de suite, évidemment, par la solidarité. Une solidarité un petit peu particulière, parce que là, l'intuition, c'est qu'elle est assumée par une communauté. Et on se rend compte aujourd'hui que dans la communauté, Les gens qui essaient de suivre le Christ, qui sont des priants, qui s'ouvrent véritablement à cette dimension de la diaconie, qui n'est pas facultative quand on aime le Seigneur, eh bien, aujourd'hui, dans notre monde moderne, les gens sont tiraillés. Vous êtes tiraillé par votre boulot qui vous prend beaucoup de temps, vous êtes tiraillé par votre famille où il faut être sur ce front-là aussi, vous êtes tiraillé par des engagements qui peuvent être autres que des engagements de la solidarité. Et comment faire ? Un réseau, ça a eu cette intuition géniale de se dire, ben, comme le slogan du Secours catholique à un moment donné, à tous on peut tout. Et finalement, en communauté, s'il n'y avait pas comme une capitalisation des talents, ça pourrait faire comme un creuset, un trésor magnifique, où à tous, un petit peu, avec ce qu'on est, on pourrait finalement faire beaucoup de choses. Donc ça s'est développé, voilà, un axe important de la solidarité, en se disant, il n'y a pas de petits services. Et on se rend compte qu'en disant qu'il n'y a pas de petits services, du coup, il n'y a pas de personne qui ne soit pas digne de ce petit service. Chacun, en fonction de ce qu'il est, en fonction des charismes qu'il a reçus, peut se mettre au service. Et ça, j'avoue que ça a été une des grandes découvertes, on en donnera plein d'exemples, et c'est vraiment une des beautés du réseau qui permet à chacun d'entrer dans le don de soi. Et on le sait bien, quand on interpelle une personne pour lui dire « on a besoin de toi », cette personne, on la rend heureuse, parce qu'elle entre en mouvement envers son frère, et que ça change. On sait bien que dans la vie spirituelle, on est amené à être transformé. Voilà, c'est la route qui transforme et qui fait avancer. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est une chance qu'il faut proposer à chacun en communauté. Et ce réseau, il a ce côté magnifique de proposer ça. Hein. Il permet donc de goûter la joie du service. Très vite, on s'est aperçu que la solidarité, ben, ça laisse sur sa faim. Les gens rencontrés, si finalement l'Église n'est pas capable d'autre chose que de rendre un service, comme on aurait pu aller chercher au service social, ben, on ne voit pas la différence. Et très vite, les personnes accompagnées, on s'est dit, toute l'équipe du réseau s'est dit, mais c'est pas possible, il faut ouvrir des espaces autres pour proposer de la fraternité. Et progressivement, des repas ont été mis en place en se disant, ben, oui, il faut qu'on soit capable d'inviter les gens rencontrés pour faire un petit bout de chemin d'égal à égal, où il n'y a plus d'aidants et d'aidés, mais on vivra autre chose ensemble. Et du coup, cet axe de la fraternité est apparu très vite, très important. Réseau de fraternité et de proximité. Et du coup, très vite, la proximité, pourquoi ? Parce que c'est quand on a partagé en vérité, hein, des choses très fraternelles et très fortes, il y a une certaine proximité qui s'établit et des liens dans le temps qui se tissent. Voilà. Donc, je vais m'arrêter de parler parce qu'en fait, je vais vous le dire franchement, on a beau être intimidé, dès que vous nous branchez sur le réseau, on pourrait parler pendant des heures. Donc moi, je vais m'arrêter de parler et après, on verra peut-être un deuxième mouvement que ça a fait faire à la paroisse. Hein, parce que c'est toute une paroisse, il a fallu du temps qui se mette en mouvement et vous verrez après qu'il y a eu un autre mouvement. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus pour éclairer avec des expériences.
Et alors du coup, est-ce que vous pourriez nous dire... Quel genre d'activité, finalement, on trouve dans ce réseau ? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui serait prêt à répondre à cette question.
Éventuellement.
Christine et puis Christian, qui est un des anciens du réseau, s'il faudra.
Hein, tu veux commencer, Christian ?
Non, vas-y.
Bon. Alors, donc, moi, je suis dans le réseau depuis un peu moins longtemps que Pascal et je suis la partie discrète de notre binôme de coordination. Donc je suis beaucoup moins à l'aise pour parler et je suis désolée parce que ce sera beaucoup moins efficace. Alors en fait, dans notre réseau, on a en fait trois axes forts. Vivre la convivialité ensemble, c'est-à-dire les repas du premier dimanche du mois dans le presbytère de la collégiale, suivi maintenant d'autres repas fraternels. Où on se retrouve dans les différents clochers pour partager ensemble un repas que chacun porte en fait. Voilà. L'idée c'est de partager du temps, partager des nouvelles des uns et des autres, partager un bon moment ensemble et partager aussi les petits plats qui sont préparés. Voilà, donc ça c'est... La partie des repas, en fait, on a des cafés après les messes du jeudi matin qui permettent de rencontrer des personnes qui vont à la messe, qui souvent repartaient sans s'être parlé et qui, à l'occasion du café, ben, prennent un petit moment ensemble et finalement créent des liens. Donc après, il y a le réveillon de la Saint-Sylvestre, il y a des tables ouvertes, il y a un barbecue du mois de juin, il y a des ateliers de bricolage, cartonnage, couture, voilà, pour la fête paroissiale, pour produire des choses qui vont être vendues pour une association. Voilà, ça c'est la partie convivialité, donc c'est passer des bons moments ensemble et créer des liens. Il y a toute une partie prier ensemble, en fait. D'abord, l'évangile est au cœur de nos réunions de travail. Et nous portons dans la prière les personnes que nous suivons. Voilà, c'est important. Il y a un petit groupe qui s'appelle Chantons en réseau, un groupe de chants qui anime des messes à la maison centrale de Poissy et dans les maisons de retraite. Et il y a un échange d'intentions de prière avec les prisonniers, avec aussi les personnes des maisons de retraite. Voilà. Et on est en train de commencer à créer une équipe fraternelle dont on espère qu'elle va démarrer au mois de janvier. Voilà. Après, le troisième axe, c'est la partie solidarité, c'est partager nos talents. Chacun de nous a des talents cachés ou non. Et nos paroisses vraiment regorgent de personnes qui ont beaucoup de choses à donner. Alors, en fait, on propose tout ce que les personnes nous donnent comme talent. Alors, il peut y avoir du soutien scolaire, des démarches administratives, la visite aux personnes seules, de l'alphabétisation, garde d'enfants, il y a des déménagements, enfin, bref. Un tas de choses qui sont toujours à réinventer, parce qu'à chaque fois, on nous pose des questions, on nous demande des services différents qu'on va devoir réimaginer. Voilà.
Donc, si j'ai bien compris, il y a beaucoup d'activités, d'abord. Hein. Et puis alors, chacun peut à certains moments être demandeur, mais aussi proposer quelque chose, quoi. Hein. Et c'est le noyau, donc vous voyez l'importance du noyau, qui est chargé de faire que ça communique entre tout ce monde-là. Hein. Alors, peut-être, Christian, je crois que vous, justement, vous avez vécu quelque chose de cet ordre-là. À un moment donné, vous avez était demandeur par rapport au réseau, puis à un moment donné, vous avez beaucoup aidé quelqu'un. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous avez découvert le réseau, et puis, voilà, comment ça s'est passé?
Bon, je m'appelle Christian, et là, j'ai travaillé à ce moment-là, j'ai pu m'acheter un petit chalet qui se trouve sur l'eau, sur Pelouty, pour dire, sur un étang. Donc, je travaillais, je payais mon loyer de mon appartement, plus le crédit que j'avais fait pour le petit chalet. Et puis, arrivé à mes 60 ans, il a fallu que je me retrouvais à la traite. Bien sûr, mais la paye n'était pas la même, comme tout le monde doit savoir. En plus que j'étais barman, c'est mon métier. Donc, nous, le défaut qu'on a, c'est qu'on n'est pas déclaré ce qu'on gagne. Donc, automatiquement, j'ai une petite retraite, il fallait que j'abandonne l'un ou l'autre. Et comme j'avais fait une demande de crédit, donc c'était difficile pour moi. Donc, j'ai lâché mon petit appartement, j'ai vécu dans mon petit chalet. Mais l'inconvénient qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il n'y avait rien. Donc, il fallait que je me fournisse à l'extérieur. Donc, j'allais chercher de l'eau dans un endroit qu'on était autorisé par le maire de Carrières-sous-Poissy. Au cimetière. Et l'été, ça allait, parce qu'on avait un groupe électrogène pour voir la télé, la lumière un peu. Mais quand est arrivé l'hiver, qu'il a fallu que je me chauffe, c'est là que j'ai eu ce problème. Donc je m'étais renseigné dans Carrières, Poissy, enfin dans les alentours, pour avoir du fioul, puisque j'avais acheté un chauffage à fioul à ce moment-là. Mais pas de marchand de charbon, il n'y avait rien que je ne pouvais pas acheter au bidon. Le seul truc que je pouvais avoir, c'était par 500 litres, par Leclerc, sans notre Leclerc, ou Carrefour. Et je ne pouvais pas me le permettre, je n'avais pas les moyens. Donc, il fallait par 20 litres par bidon. Mais où? Et on avait réussi avec des amis, enfin, que je connaissais, qu'il fallait que j'aille chercher un marchand de charbon qui se trouvait à Argenteuil, dans le Val d'Oise. J'avais pas de voiture, j'étais embêté. Et puis bon, comme je faisais un peu partie du secours catholique, de Poissy. C'est là qu'ils m'ont dit, bon, bah, écoute, on va s'arranger, on va trouver quelqu'un puis qui va t'emmener en voiture pour aller chercher du fioul à Argenteuil. Donc, ils ont trouvé une personne qui s'appelle Laïla, avec la connaissance de Pascal. Et elle est venue, enfin, elle m'a appelé du moins, parce que le secours catholique, le responsable du secours catholique leur, lui avait dit de mon numéro de téléphone. Et puis, elle m'a téléphoné. Et elle m'a demandé si j'avais du fioul pour le soir. J'ai dit, bah oui, j'en ai un peu. Et elle me dit, parce que je ne peux pas venir aujourd'hui, je ne viendrai que demain. Et elle m'a fait une proposition au téléphone, que là, ça m'a apporté beaucoup. Puis elle m'a dit, si tu n'as pas de chauffage pour ce soir, ne t'inquiète pas, je viens te chercher et tu dormiras à la maison. Une personne que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais eue au téléphone, sauf ce jour-là, me proposait d'aller chez elle, ça m'a beaucoup touché. Non, j'ai dit, non, vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Donc elle est venue le lendemain avec Pascal, et on a été chercher avec sa voiture du fioul. Mais après, j'étais embêté quand même, parce que bon, un bidon de 20 litres, ça ne dure pas 6 mois. Surtout qu'en plein hiver, au mois de décembre, hein, en 3 jours, c'est fini, même pas. Donc après, ben, on s'est renseigné, après, bon... Plusieurs fois, parce qu'elle est venue avec sa voiture. Cette amie-là aussi, qui s'appelle Laïla. Et après, on s'est débrouillé. Puis après, bon, avec mon neveu, on a eu une voiture. Il m'a proposé d'avoir une voiture. Donc après, j'ai pu. Et depuis ce temps-là, je fais partie du réseau qu'on a organisé pratiquement avec Laïla et puis Pascal. Puisque donc j'en suis pratiquement fondateur. Ça fait 13 ans, 14 ans maintenant. Et ça m'a beaucoup porté. Et après, le lendemain, ou sur le lendemain, Pascal m'a téléphoné en me disant, si tu veux, voilà, on va essayer d'organiser des repas pour le premier dimanche de chaque mois au presbytère de Poissy. Si tu veux, bah, tu viens. Et voilà. Et maintenant... Et là, bon, j'ai eu encore un petit problème. C'est vu mon étang, j'habitais dedans, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Et en 2013, il y a une tempête qui s'est passée au mois de décembre. J'ai eu un arbre qui est tombé sur ma toiture à 5 heures du matin, le 24 au matin, 24, le jour de Noël. Donc là, j'ai eu des problèmes parce que bon, je ne pouvais plus vivre dedans parce que bon, la police, la mairie m'ont interdit pendant plus d'un an de ne pas pouvoir vivre parce qu'ils ont eu peur que ça... Parce que vu le choc, ça bougeait beaucoup de trucs du chalet. Et puis bon, ben, pendant un an, je n'ai pas pu y aller. Donc là, ils m'ont trouvé un appartement rapide. Enfin, ce que j'appelle un appartement, c'est vraiment un petit truc. Que comme je ne peux pas payer un gros loyer, puisque la traite que j'ai. Et là, bon, j'ai essayé depuis un an d'y retourner. De temps en temps, j'y retourne, j'essaye d'arranger tout. Et puis, bon, voilà. Puis, par l'aide de Pascal, j'ai eu trois personnes qui sont venues m'aider pour remettre certains trucs en place. Quoi.
Et puis là, à cette occasion-là, vous avez donné un sacré coup de main
voilà.
à une autre personne, je crois.
Et hein. pendant le temps que je ne pouvais pas aller dans mon appartement, enfin, que je ne pouvais pas retourner au chalet. J'ai une dame qui venait au réseau tous les dimanches, enfin, le premier dimanche de chaque mois, au repas. Elle m'a proposé de venir chez elle en attendant que je trouve un appartement. C'est une personne de 80 ans, enfin, non, 83, puisque on avait fêté quelques années avant ses 80 ans, donc maintenant elle avait 83 ans à ce moment-là, m'a proposé de vivre chez elle, le temps que je trouve un appartement. J'étais pas tellement chaud parce que je voulais pas déranger parce que je suis quand même assez timide, enfin, assez, donc je voulais pas déranger. Et puis, plusieurs personnes, dont la fameuse Laïla, Pascal aussi, m'avait dit, puisque c'est elle qui te propose, vas-y, parce que moi je voulais pas non plus, puis il a dérangé sa petite vie, parce qu'elle était quand même handicapée, donc parce qu'elle avait un lit médicalisé, elle avait un fauteuil médicalisé, tout ça, quoi. Donc j'ai fini par accepter. Donc comme elle avait une chambre de plus, donc j'ai vécu pendant 10 mois chez elle. Donc je l'ai beaucoup aidée, elle m'a aidée aussi, puisqu'elle m'a hébergée. Mais bon, je payais quand même mes repas, hein. Malgré tout, je faisais beaucoup de choses. Hein. De toute façon, je faisais à manger midi et soir, parce que bon, comme j'étais dans l'hôtellerie, donc. Et puis bon, voilà. Puis maintenant, bon, je regrette parce que. Enfin, je reviens encore sur le même sujet. Pour moi, c'est de ma faute qu'elle est décédée, parce que bon, je l'ai trop nourrie, parce que j'ignorais qu'elle était diabétique. Et oui, c'est. Je ne savais pas qu'elle était diabétique. Alors, comme elle adorait mes petits plats, voilà. Elle était livrée pourtant des repas de la mairie, hein. Mais elle ne les mangeait pas. Parce que des fois, je les foutais à la poubelle. Hein. Par obligation, mais bon. Après, bon, plusieurs fois, bon, elle a eu des malaises. J'ai tout fait d'appeler les pompiers, et puis bon. Quand même, elle faisait plus de 100 kilos, donc j'avais du mal à la soulever. Mais bon, alors de temps en temps, je l'emmenais au resto. Souvent, j'allais faire ses courses. Toutes les semaines, j'allais faire ses courses, puisqu'elle avait le droit, comme elle était sur tutelle. Non, pas sur tutelle, elle était sur curatelle. Donc, tous les semaines, elle recevait des sous donc j'allais chercher son argent, puisqu'elle ne pouvait pas se déplacer. Parce que j'avais sa carte bleue, carte d'identité, j'avais tout. Elle avait vraiment une confiance en moi, à 100%. Et bon, le jour que j'ai appris ça, j'étais malade parce que bon, pour moi, c'était de ma faute. Parce que bon, mais bon, comme ils disent que bon. Elle ne voulait pas le dire parce que, étant donné qu'elle adorait mes petits plats. Donc, mais moi. Voilà. Voilà ce que m'apporte le réseau et j'en suis très content. Et quand je peux faire quelque chose, j'ai fait des déménagements pour le réseau, j'ai fait tout un tas de trucs. Et comme on fait tous les dimanches, le premier de chaque mois, je viens en avance, trois quarts d'heure avant. Et c'est moi qui mets la table pour tout le monde. Je prépare tout pour tout le monde. En attendant qu'ils arrivent. Voilà.
Merci beaucoup, Christian. Et merci beaucoup parce qu'en plus, ça nous donne ça nous fait voir concrètement qu'est-ce qui peut se passer dans le cadre du réseau. Voilà. Hein.
Mais si j'avais pas le réseau, je ne serais pas là en ce moment. Je ne sais pas où je serais. Ça fait 14 ans maintenant. Je suis le plus ancien du réseau.
Et Victoria, ça fait combien de temps que vous connaissez le réseau ?
Ça fait un moment que je suis, ça fait pas trop longtemps, mais que je le connais il y a longtemps. Seulement.
Est-ce qu'on vous entend bien ? Ouais.
Tu t'approches un peu.
C'est vrai que je.
C'est bon.
Tant que je travaillais, je l'avais très peu de temps. Et c'était depuis que je suis à la retraite, où j'ai un peu plus de temps et que je suis rentrée plus dedans, quoi. Voilà.
Et alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous faites de beau avec le réseau ?
Alors, moi, je vais visiter des personnes seules. Donc, je vais leur tenir, leur faire une visite une fois, deux fois par semaine. Je m'occupe de ce qui se présente. Quand on a besoin de moi, je suis là. Comme si j'avais besoin de quelqu'un, il y en a aussi. Voilà, c'est ça le réseau. Voilà, on y va, on donne ce qu'on peut donner, ce qu'on attend de soi, mais en même temps, on reçoit. Parce que ces visites, on reçoit énormément. De voir ces personnes le peu de temps qu'on passe avec, qui sont heureuses, qui demandent quand est-ce que vous revenez, voilà. C'est extraordinaire, ça.
Donc, toutes les semaines, vous allez voir comme ça des
voilà.
personnes.
Voilà. Et puis, Enfin, c'est le quotidien. Ouais. C'est le quotidien.
Je crois que vous participez aussi à un repas qui a lieu une fois par mois.
Je participe aussi au repas donc une fois par mois.
Christian qui met la table.
Pendant les vacances, nous avons pendant 2 mois, il y a un repas tous les mercredis. Donc pour les personnes qui ne partent pas en vacances, le mercredi soir, on fait un repas en partage aussi. Donc il fait partie du réseau. Donc là, on y est. S'il y a des personnes à accompagner ou à aller chercher, on va les chercher, on va les accompagner. Moi, je n'ai pas de voiture, donc je fais plutôt le quartier. Mais voilà, on passe une soirée à tous, les choses en comptant, et nous aussi.
Et qu'est-ce qui fait le repas ?
Alors, chacun amène quelque chose, et on fait un partage. Donc, tout ce qu'on amène. Alors, il y a un anniversaire, il y en a un qui amène une bouteille de champagne, donc une petite bouteille de champagne pour chacun. C'est sympa. Puis ça permet de dire, ok, c'est l'anniversaire de telle ou telle personne. Ça fait, c'est chaleureux. C'est vrai que moi, personnellement, je me sens bien. Et je pense que les gens qui viennent, ils se sentent bien.
Merci beaucoup, Victoria. Peut-être, Jean, vous pourriez nous dire un petit mot aussi sur, pour vous, qu'est-ce que ça représentait le réseau ?
Moi, je voudrais dire que, pour moi en tout cas, hein, c'est la question que vous posez, le réseau, ça m'a permis d'avoir des amitiés avec des personnes, je pense, que je n'aurais pas rencontrées. On crève, j'ai envie de dire, de vivre dans des lieux où chacun se ferme et se construit des mondes où on est un peu semblables les uns les autres, dans nos quartiers, dans nos professions. Et j'ai envie de dire que souvent, et Christian l'a dit tout à l'heure, à partir d'une demande, d'un service que l'un d'entre nous peut rendre, il y a la possibilité de construire une relation dans la durée. J'ai l'impression, c'est pour ça qu'on a peut-être réagi par rapport au mot « solidarité », que parfois on donne de l'argent, il n'y a pas d'argent du tout dans le réseau. C'est une démarche de gratuité. On donne de l'argent, on donne un service, mais la relation ne se construit pas. Et là, avoir des relations d'amitié avec des personnes dont vous savez qu'elles sont là en gratuité comme vous, et qui permettent d'entrer progressivement dans la réciprocité. C'est quelque chose d'absolument étonnant. Et je trouve que, en tout cas je le dis pour moi, on a des relations d'une profondeur et d'une vérité qu'on n'a pas toujours dans une famille, parce que justement, d'une certaine manière, les uns les autres touchons au plus près notre propre fragilité. Au contact de situations fragiles, tout proches de nous, et qu'on ne mesure pas, Christian l'a évoqué à l'instant. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de personnes souffrent de l'isolement, et non pas de lieux où nous puissions, avec eux, dire tout simplement, faire tout simplement les gestes fraternels. Et là, on le sait, c'est un lieu de fraternité, de communion. Alors c'est modeste, hein, faudrait surtout pas que vous vous imaginiez que, voilà, je sais pas quoi, c'est le paradis sur terre. Hein. Mais j'ai envie de dire, petit à petit, il y a quelque chose de chaleureux et... Je le dis pour moi, bon, on a dit que j'étais prof un peu au Centre Sèvres, philo. Le sentiment d'être dans un endroit où on n'est que frères et sœurs les uns devant les autres, sans être dans nos systèmes sociaux de représentation. Et ça se vit bien sûr souvent davantage dans les quartiers simples que dans nos quartiers de centre-ville. Et d'essayer de faire de ces lieux-là et de les relier entre eux. En tout cas, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup. Peut-être, Christine, si vous aviez tel ou tel souvenir particulièrement heureux d'une expérience faite avec le réseau, qu'est-ce qui vous viendrait à la mémoire ?
Alors, des expériences heureuses avec le réseau, il y en a plein, en fait. Parce que finalement, de toutes les situations qu'on rencontre, toutes les personnes qu'on rencontre, il y a quelque chose qui se crée, un lien qui se crée. Et il y a quelque chose qui passe. Et donc, en fait, dans la plupart des cas, évidemment, il y a toujours des cas où ça se passe moins bien, mais dans la plupart des cas, on en sort heureux. Alors, oui, Pascal me dit, il y a deux choses très récemment, deux petites merveilles qu'on a eues. On nous a appelé un après-midi parce qu'il y avait une maman dont le mari était parti et qui se retrouvait expulsée avec trois enfants. Alors, elle vivait dans sa voiture et les enfants étaient répartis dans des familles de voisins. Et en fait, la personne qui nous a appelé nous a dit, je voudrais faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi, et je suis un peu perdue. Il se trouve qu'on était en petite réunion à ce moment-là, et que, on a rebondi, et si on appelait ceci, et bref, les idées ont fusé, et finalement, par des biais assez extraordinaires, eh bien, le soir, la famille était relogée dans un hôtel social, et c'était une grande joie, voilà. Et sinon, on a eu aussi, dans un domaine complètement différent, en fait, un restaurateur de Poissy, donc qui a une pizzeria où on mange très bien, et qui est fermée le dimanche. Et en fait, ayant repéré qu'on avait l'air de parler un peu de la paroisse, que je ne sais quoi, le monsieur est venu nous dire « Est-ce que vous faites partie du service social de la collégiale ?» Alors on a dit « C'est pas tout à fait ça, mais un peu quand même. » Voilà, et en fait, il nous a proposé d'ouvrir une fois par mois son restaurant pour un repas où on pourrait inviter des personnes qui sont seules ou qui ont des problèmes financiers, qui ont besoin de chaleur et de nourriture. Donc on est en train de voir avec eux comment faire ça, peut-être justement l'équipe fraternelle qu'on va monter pourrait se tenir là. Mais c'est une famille ils sont coptes, voilà. Et en fait, ils veulent recevoir et donner en famille. Donc en fait, ils se mettraient, ils ouvriraient leur restaurant, ils feraient un repas et les parents et les enfants serviraient ceux qui viendraient, voilà. Donc.
Et ça, on vous le dit parce que ça fait partie de nos petits bonheurs.
Voilà.
On se dit qu'on avait presque envie, rien que ça, comme Saint-François, vous voyez, d'écrire les Fioretti. Parce que ça, franchement, quand vous voyez ça, vous n'avez plus qu'à ouvrir les mains et dire « c'est pas vrai, quoi ». C'est vraiment un truc extra, quoi, vraiment.
Et comme quoi, on peut dire, il y a sans doute beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire des choses, mais qui cherchent des lieux ou des occasions pour mettre ça en œuvre. Et c'est pas facile quand on est tout seul. Ça demande d'avoir des gens qui nous aident, quoi. Hein. Donc, sûrement que le réseau permet de cristalliser ça. Alors, sinon, j'avais une autre question. C'est qu'on avait intitulé la soirée La solidarité. C'était comment déjà ? Facteur de renouveau de la paroisse. Alors, une question quand même qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous diriez que ça a apporté quelque chose à la paroisse ou aux paroisses, à l'ensemble paroissial de Poissy-Vilaine, hein. Et comment, et quoi, qu'est-ce que ça a apporté ? Alors peut-être Pascal, mais peut-être aussi Victoria, vous auriez des choses à dire, non ?
Non, mais je suis pressante.
Moi, j'ai envie de dire que ça a apporté énormément de choses. Parce qu'au fil du temps, on a quand même en paroisse les gens qui nous disent mais on fait tous partie du réseau. Ça déjà, je trouve que c'est vraiment une belle chose. En plus, après, j'ai envie de dire que ça, le fait de porter une attention accrue vers les pauvretés, vers des gens qui pourraient avoir besoin, le fait de, effectivement, essayer de vivre certaines choses, on s'est aperçu progressivement et bien que ça engendrait un autre mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le mouvement inverse vers la paroisse, et on s'est dit, mais finalement, pour être actifs tous ensemble vers l'extérieur de la paroisse, est-ce que nous vivons suffisamment ce que nous annonçons ? et ce dans quoi nous voulons entrer. Et vous vous rendez compte qu'après, eh bien, chacun en paroisse, c'est ce à quoi nous travaillons, essaie de devenir veilleur de son frère, et se pose quand même la question, et nous, en paroisse, est-ce que nous sommes un peuple de frères ? Alors, ça a changé radicalement les choses. Parce que quand Christine vous parlait tout à l'heure du café, ce petit café de rien du tout après une messe de semaine, les gens apprennent à se connaître. Les gens, tout à l'heure on disait pas les pauvres, parce que très vite ça ne veut rien dire ça. C'est des personnes, ces personnes ont un nom, on entre en relation avec elles et on tisse des liens d'amitié. Est-ce qu'on le fait en paroisse ? En paroisse, dès qu'on commence à regarder, on tremble en regardant les solitudes, les individus posés les uns à côté des autres. Nous, notre groupement est un gros groupement, c'est une grosse paroisse. C'est très difficile, ce n'est pas les mêmes défis que des petites paroisses où vous pourriez vous dire on a une ambiance de village, on se connaît tous, on se donne des rendez-vous, on fait des choses ensemble. Dès que vous vous adressez à un grand groupement, vous entrez la plupart du temps dans de l'anonymat. Or, les gens et nous tous en communauté, on a envie de tout sauf d'anonymat. J'avoue quand même que le réseau progressivement a travaillé à ça. Et que ce soit avec les cafés, que ce soit maintenant les repas fraternels paroissiaux, parce qu'on s'est rendu compte que les repas proposés le dimanche pour les gens rencontrés où on invitait des paroissiens, ça marche, mais à moitié, quoi. Voilà. Il faut aussi que les gens vivent pour eux-mêmes les choses. Et c'est parce qu'ils vivront eux aussi en fraternité forte dans les paroisses qu'ils auront envie de s'ouvrir. Et du coup, les repas fraternels paroissiaux, qui s'y sont mis en place là, il n'y a pas si longtemps, marchent, j'ai envie de dire, d'un feu de Dieu, je ne sais pas si je peux dire ça, mais vraiment ça marche. Et vous vous rendez compte qu'à partir du moment où vous commencez à regarder autrement, vous regardez donc les pauvretés, vous vous apercevez que, on est en réflexion, il faudrait peut-être créer un réseau pour les jeunes pros, parce que sur notre groupement, on voit plein de jeunes arriver, voilà. Dès que vous n'êtes plus dans des petits groupes d'adoration, de liturgie, de tout ça, vous êtes un peu tout seul. Voilà. Et on les voit arriver tout seuls, vivre la messe, partent tout seuls. Bon, je ne veux pas dire du self-service, mais un peu. On est en réflexion là-dessus. Et on est en réflexion, comme vous disiez Christine, c'est là ça la beauté du retour du réseau, je trouve, c'est que quand on a tissé les liens dont parlait Christian, on se dit, mais on a donné, on essaie de vivre de la fraternité. Si on est chrétien, est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on dit vraiment ce qui nous anime, de qui on vit ? Est-ce qu'on partage un peu plus loin ? Voilà, dans un partage spirituel. Est-ce qu'on dit au nom de qui on fait tout ça ? Et l'équipe fraternelle, c'est oser partager l'évangile avec des gens dans des grandes pauvretés. On est en train de réfléchir à ça, de mettre ça en place. Donc tout ça pour vous dire, tout ça c'est le réseau qui, dans un grand retour de vague, fait et vous là-dedans, à l'intérieur de la boîte, voilà, vous vivez quoi ? Et ça, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en mouvement.
Jean voulait dire un petit quelque chose, mais je crois aussi qu'on peut dire que dans le diocèse, ça fait un peu école aussi. Il y a telle ou telle autre paroisse qui ont fait des choses, pas forcément exactement pareilles d'ailleurs, mais en s'inspirant un peu de... Hein.
Oui, c'était même d'ailleurs émouvant, parce que dans le cadre de la visite pastorale de notre évêque, sur le doyenné dans lequel nous sommes... Les initiatives qui se vivaient à Conflans, à Achères, etc., se sont partagées, des bonnes pratiques, des bonnes idées se sont communiquées, avec l'idée évidemment d'essayer de faire des réseaux de réseaux. Hein. Et il y a là notre diacre, responsable de la diaconie sur le diocèse de Versailles, voilà.
Et on a Marie-Françoise Pieudin, qui donc est du réseau de Conflans, qui est avec nous ce soir.
Et je voulais dire aussi que facteur de renouveau, parce que faudrait pas imaginer que ce n'est que dans le réseau qu'il y a de la relation fraternelle, de la solidarité, des partages de services. Mais quand dans une paroisse, cette dimension-là devient plus visible, alors ceux qui le font plus secrètement se relient au réseau, communiquent les choses. Et du coup, ça devient progressivement quelque chose de plus contagieux. Et il devient plus facile pour les personnes de voir en quoi concrètement, dans des actes qui peuvent sembler simples, comment concrètement ils sont présence d'évangile, présence d'amitié, présence de solidarité. Et du coup, les offertoires prennent plus de sens, vous voyez. De la même manière, je crois qu'un réseau aussi, ça permet une plus grande relation entre les lieux d'église plus institutionnels. Vous voyez, par exemple, chez nous, le Secours catholique qui est très, 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 très engagé, qui est très présent, et la communauté paroissiale. Parce que le Secours catholique nous dit souvent, nous, on sait faire le vestiaire, on sait faire des aides financières, on sait faire, parce qu'on a de la compétence, accompagner quelqu'un pour ses papiers, notamment pour les migrants. Mais on ne sait pas forcément bien faire l'accompagnement personnalisé, la relation, le fait d'inviter chez soi une personne. Et du coup, ça permet cette relation, nous qui n'avons pas d'argent, qui n'avons pas de structure institutionnelle, eh bien, on se relie au Secours catholique ou à d'autres organisations d'église pour prendre le relais. Et inversement, pour la solidarité de proximité, la reconnaissance mutuelle, franchir les solitudes, alors à ce moment-là, toute l'armée des personnes plus modestes peuvent, chacun d'entre nous, pouvons être présents. Et cette mise en relation du corps ecclésial, j'ai envie de dire, c'est quand même le cœur de la charité.
Merci beaucoup. Alors, je suppose que vous avez peut-être des questions, mais pour l'instant, alors gardez-les précieusement. Il y a Grégoire qui va nous dire, qui va nous faire une petite reprise, une petite relecture aussi de l'expérience de Poissy. Et puis après ça, on aura un temps d'échange. Voilà.
Merci. Voilà, je crois que ce qu'on a entendu est très riche et fait penser à beaucoup de choses. Et donc moi, en lisant déjà un petit peu votre expérience et puis en réentendant, ça m'a fait penser à quelques points que je vais vous partager quoi, très, très simplement. Je pars de ce qui s'est passé à Lourdes, à Diaconia. Un des échos, peut-être certains d'entre vous y étaient, un des échos du groupe Place et Parole des Pauvres disait ceci. Ce qu'on a appris dans notre groupe, c'est que Dieu est vrai. C'est pour ça que le titre d'Étienne, c'est ça. Ce qu'on a appris dans notre groupe, c'est que Dieu est vrai. J'ai pu rencontrer des gens qui vivaient la croix, la souffrance, l'abandon et qui vivaient une résurrection. C'est tout l'évangile qui est vrai. Ce n'est pas vrai parce que je me force à croire, mais ce sont mes frères qui me disent que c'est vrai. Et les mots de confiance et d'espérance prennent un sens et deviennent vivants en moi parce qu'ils sont vrais dans la vie des autres. J'ai besoin de mes frères et sœurs pour découvrir que les évangiles, c'est vrai. Et j'ai en particulier besoin de ceux qui passent par des chemins douloureux. J'ai besoin de mes frères et sœurs pour découvrir les évangiles. Pour découvrir que les évangiles, c'est vrai. Et j'ai en particulier besoin de ceux qui passent par des chemins douloureux. On peut laisser résonner ces mots. Je crois que ce qui se vit au travers d'un réseau, le réseau de fraternité et proximité, tout ce que nous venons d'entendre, ça a quelque chose à voir avec cela. Nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs, nous avons besoin de vivre la profondeur de la fraternité, de vivre aussi cette fraternité vraiment en profondeur, pour croire, pour pouvoir dire « les évangiles, c'est vrai », pour pouvoir dire « Dieu, c'est vrai ». Et cette fraternité, pour être vraiment en profondeur, elle a besoin de s'ouvrir, de se déployer, en particulier, certainement, du côté de celles et ceux qui sont en souffrance, celles et ceux qui sont peut-être plus éloignés, qui ne font pas partie de notre famille proche. Sinon, si la fraternité reste simplement avec les proches avec qui on a le plus d'affinité, ben ça risque de devenir un club privé. Alors, du coup, cette fraternité, elle devient une source importante de renouveau. Alors, pour mieux faire apparaître ce qui est en jeu ici, ce qui finalement est essentiel à notre foi, essentiel au sens que ce n'est pas anecdotique ou simplement optionnel, Je vais prendre comme grille de lecture ce que disait le pape François dans son exhortation « La joie de l'Évangile », « Evangelii Gaudium ». Ce qu'il disait surtout dans la partie qu'il a appelée « La dimension sociale de l'évangélisation ». Son point de départ était de dire, je le cite, « Si cette dimension sociale n'est pas dûment explicitée, on court toujours le risque de défigurer la signification authentique et intégrale de la mission évangélisatrice de l'Église. » Voilà, si la dimension sociale n'est pas dûment explicitée. Et plus loin, il ajoutait, « Nous ne pouvons pas toujours manifester adéquatement la beauté de l'Évangile, mais nous devons toujours manifester ce signe, l'option pour les derniers, pour ceux que la société rejette et met de côté. » Ce qui touche à la fraternité, à la solidarité, aux soins des relations avec les plus pauvres, les plus fragiles, aux soins qu'on leur accorde, toutes ces choses qui sont d'une certaine manière présentes dans le réseau, tout cela est bien essentiel, indispensable à l'Église. Et donc, on ne peut pas se satisfaire, et c'est un peu ce qu'on a entendu, on ne peut pas se satisfaire, si c'est vraiment essentiel, que ça soit réservé simplement à quelques spécialistes dans la paroisse. Les personnes engagées au Secours catholique, les personnes engagées à la conférence Saint-Vincent de Paul, ou les militants du CCFD. Finalement, tous et toutes, à un moment donné, doivent se sentir concernés. Tous, chacun, chacune à sa mesure, on doit se sentir concerné. Et c'est bien cela qui est en jeu, en essayant de trouver cette forme qu'a pris le réseau. Et, on l'a entendu aussi, la communauté paroissiale s'en trouve dès lors transformée. En parlant, je continue à regarder des choses à partir de ce que dit le pape. En parlant de l'option préférentielle pour les pauvres, qui est un des principes clés de l'enseignement social de l'Église, le pape rappelle que c'est là, il dit, une catégorie théologique, avant d'être culturelle, sociologique, politique ou philosophique. On peut dire que c'est la manière d'être de Dieu. Dieu qui prend soin du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, comme on l'entend souvent dans l'Ancien Testament. C'est aussi la manière de faire de Jésus, qui accueille largement les prostituées, les pécheurs, les publicains, les lépreux, bref, tous les exclus de son temps. C'est la manière de faire de Jésus qui place les petits-enfants au centre en annonçant que le royaume appartient à celles et ceux qui leur ressemblent. Donc travailler à une fraternité plus profonde, plus large, notamment avec des personnes fragiles, en précarité, ce n'est pas seulement une exigence éthique, mais c'est un chemin de foi, un lieu de révélation, de rencontre de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire, que c'est une catégorie théologique, quoi. Voilà, c'est que ça nous ramène à Dieu. Un lieu de révélation, un lieu de rencontre de Dieu. Ce n'est pas seulement, je dirais, un devoir moral que l'on ferait découler de notre foi. Notre foi nous dit, il faut nous aimer les uns les autres. Alors on se dit, ben, il faut le faire. Oui, c'est vrai que notre foi nous dit ça et on le lit dans l'Évangile. Mais il y a quelque chose de plus. Le fait de développer cette fraternité, c'est surtout parce que c'est un lieu où la foi se déploie, où Dieu se révèle. Et il y a une citation qui dit ça très bien dans la suite de Evangelii Gaudium. Un tout petit peu plus loin. « Je désire une église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. » Et le pape conclut « Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux. » Découvrir le Christ en eux. « À prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre, et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. » Et alors, pour en dire un tout petit peu plus sur cette dimension théologique, sur cette dimension de révélation de Dieu qui se joue dans le déploiement d'une fraternité, comme le réseau essaye de le faire, je vais prendre trois mots. Joie, croix et miséricorde. D'abord, joie. Je crois que ce qu'on a entendu, indéniablement, nous rappelle ou nous fait découvrir qu'il y a vraiment beaucoup de joie qui se manifeste dans ce, dans ce qui se vit dans le réseau. Je vous ai entendu dire à quel point c'était heureux, il y avait des merveilles. Voilà. C'est des mots qui reviennent beaucoup. Dans le livre, il y a même un témoignage que Étienne souligne, où il dit « Les premiers mots du témoignage, c'est simplement de dire « Je suis contente de faire partie du réseau de fraternité et proximité. » Et je crois qu'on l'a entendu ce soir. Vous êtes tous contents d'en faire partie. C'est certainement le premier fruit qui est visible. La joie est un signe sûr de l'action divine. Le pape aime à le rappeler, lui qui s'arrange toujours quand il fait un grand texte, une encyclique, pour qu'il y ait le mot « joie » dedans. Hein, on a eu la joie de l'évangile, on a eu pour sur la famille Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Bon, dans Laudato aussi, c'est presque pareil. Quoi. Je veux dire, loué sois-tu Seigneur, et puis à la fin, le pape dit, au long de ce long périple qui est à la fois dramatique et joyeux, il insiste toujours beaucoup sur la joie. En fait, dans Evangelii Gaudium, il souligne fortement que répandre l'évangile, se faire missionnaire de l'évangile, c'est répandre la joie qui nous habite. On peut penser au psaume, oh quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Il y a quelques semaines, alors que François rencontrait les jésuites réunis en congrégation générale à Rome, et notre père Étienne qui ici y était, il pourra confirmer que le pape a vraiment dit ça, le pape nous a invités, dans son discours qu'il a fait aux jésuites, il a invité tous les jésuites à demander la grâce alors de la consolation, parce qu'il employait le vocabulaire jésuite, mais enfin grosso modo c'est quand même la grâce de la joie. Il nous a rappelé aussi que répandre cette joie, cette consolation, c'était une dimension centrale de tous nos ministères. Et après, là où c'est intéressant, il justifiait cela en disant, je le cite, « La joie n'est pas un plus décoratif. C'est un indice clair de la grâce. Elle indique que l'amour est actif, opérant, présent. » C'est une très belle, très belle explication de ce qu'est la joie et en quoi elle manifeste l'action de Dieu. La joie qui se dégage dans l'expérience du réseau, je crois, est un signe, finalement, pour la communauté, que ce Dieu qui est amour, eh bien, il est actif, présent, opérant. Le deuxième mot sur lequel je réfléchis, la croix. Bien sûr, cette joie dont je parle, c'est pas un simple sourire béat, c'est pas un petit sentiment de bien-être. Ça n'est pas simplement qu'on jette un voile sur la réalité avec tout son poids de violence et de souffrance. La joie dont on parle ici n'est évidemment pas ignorance de la croix. C'est bien au contraire, en fait c'est tout le contraire. Et là aussi les mots du pape peuvent nous éclairer, nous amener à penser. En parlant de l'option pour les pauvres, le pape souligne, en plus de participer au sensus fidei, au sens de la foi, cette foi participée de tout le peuple de Dieu. En plus de participer donc au sensus fidei par leur propre souffrance, les pauvres connaissent le Christ souffrant. Et puis plus loin, il ajoute, vers la fin de l'exhortation, quelque chose qui peut nous faire réfléchir, qui n'est pas forcément facile à entendre. Parfois, nous sommes tentés d'être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains, afin d'accepter d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie devient toujours merveilleuse et nous vivons l'expérience intense d'être un peuple, l'expérience d'appartenir à un peuple. Voilà, c'est au numéro 270 de Evangelii Gaudium. Le pape, en fait, dans cette longue citation, nous rappelle deux choses. Premièrement, que c'est bien au contact de celles et ceux qui souffrent que nous rencontrons le Christ souffrant, le Christ en croix, ce Christ qui pourra nous conduire à la vie et à la résurrection. Puis il nous rappelle aussi très concrètement, deuxièmement, que ce contact, cette proximité, naturellement, nous cherchons à l'éviter. Et il y a quelque chose de sain là-dedans, on n'est pas masochiste. Mais nous cherchons à l'éviter, et donc aussi, ce que fait le pape, c'est qu'il nous invite à dépasser cette réticence. Et je crois que de ce point de vue, de manière assez juste, ce qui se passe dans le réseau est assez remarquable. Parce que c'est un lieu où on sent bien, à certains moments, on touche à de profondes misères. Mais en même temps, on touche à des profondes misères. Donc on touche aussi à la croix du Christ. Mais en fait, on le fait aussi dans un lieu où il y a un cadre, un collectif, qui font que on n'est pas avalé par cette misère. On n'est pas mis à plat. Au contraire, voilà, on la touche, mais comme disait le pape, aussi en se constituant en peuple. Et c'est là, du coup, où peut-être il y a un lieu de révélation qui se fait et qui fait que se rapprocher de la croix du Christ, eh bien, en fait, c'est un lieu de révélation de vie. Et de se rapprocher de la croix du Christ, au sens très concret, la croix du Christ qui est vécue dans les difficultés, la souffrance de nos frères et sœurs. Mais pas de manière à nous écraser, quoi. Non, quelque chose d'assez mystérieux, et on l'a entendu, c'est beaucoup de, finalement, de vie et de résurrection qui finit par jaillir. Voilà. Il y aurait à creuser, peut-être à nuancer aussi, voilà, apporter des précisions à ce que je dis là, mais je pense que il y a quelque chose qu'on peut sentir. Et tout ça, ça m'amène au troisième mot, la miséricorde, comme aussi lieu de manière d'exprimer ce qui se révèle et de ce qui est profondément, on va dire, théologique, qui dit quelque chose de Dieu. La miséricorde. Nous sortons de l'année de la miséricorde, l'année sainte, mais le pape nous a bien invités à continuer à vivre de cette dynamique. La miséricorde, il nous dit, c'est le nom de Dieu. Et puis il nous dit aussi, Jésus-Christ en est le visage. Quoi. La miséricorde, c'est l'amour qui prend la forme du cœur ouvert et touché par la misère de l'autre. Sa souffrance, son cri. Un cœur qui compatit, qui ressent avec, qui souffre avec. Et là encore, je crois qu'en ayant dit ça, on voit bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se vit aussi dans le réseau. Alors, je reprends les mots du pape, là, de ce qu'il a dit la semaine dernière à la clôture de l'année. Quand il parle de la miséricorde, il rappelle que la miséricorde, il y a une valeur sociale à cette miséricorde. Il dit, cette valeur sociale, qui nous pousse en effet à retrousser nos manches pour redonner dignité à des millions de personnes qui sont nos frères et sœurs, appelées à construire avec nous une cité, alors il dit une cité fiable, une cité de foi, quoi, voilà. Construire ensemble une cité fondée sur la foi, sur la confiance. C'est bien le Dieu de confiance qui est le socle de cette cité, mais l'expérience le montre, les relations fraternelles qui se tissent dans le soutien mutuel, hein, plus que simplement, on a bien entendu, on est sur une structure qui n'est pas très institutionnalisée. Quoi, hein, donc on met l'accent en fait sur les relations en elles-mêmes, même si dans d'autres lieux, les structures extérieures sont indispensables, quoi. Mais là, le plus important, c'est les relations fraternelles. Et ces relations fraternelles deviennent le socle d'une cité fiable, d'une cité de foi, construite ensemble, parce qu'on essaye d'intégrer tout le monde. Et donc, cette cité, aussi, et c'est peut-être le dernier point sur la miséricorde, cette cité qui se bâtit sur la confiance, c'est une cité où du coup les fragilités, puisque c'est bâti sur la confiance, sur le lien, les fragilités peuvent être accueillies. Où elles ne sont pas, les fragilités de chacun ne sont pas des marques finalement de faiblesse, mais au contraire elles sont sur ce socle sur lequel on peut bâtir, parce que quand on se reconnaît fragile, quand on reconnaît qu'on a besoin les uns de quelqu'un d'autre, alors la fraternité peut se construire. Voilà. On peut dire que la miséricorde, c'est se laisser toucher mutuellement, vivre la miséricorde, continuer à vivre la miséricorde, comme nous y invite le pape, c'est se laisser toucher mutuellement par nos misères, pour que, en se laissant toucher, des liens plus forts, des liens vrais, une fraternité puisse jaillir. Voilà. Joie, croix, miséricorde. Trois mots qui, pour dire un peu plus de ce qui se révèle du mystère de Dieu au travers d'une expérience comme celle que nous venons d'entendre. Alors j'ajoute un dernier point pour terminer, sur un petit peu un autre plan, mais je pense que c'est important à souligner, un petit point d'écho très rapide. Dans Laudato aussi, le pape François nous invite, je l'avais rappelé un petit peu tout à l'heure, à écouter, quand je parlais du séminaire de recherche, le pape François nous invite à écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres pour nous engager sur le chemin d'une véritable conversion écologique et d'une révolution culturelle. Eh bien, là encore, je crois que ce qui se vit dans le réseau de fraternité et proximité, peut-être on peut le rapprocher aussi de cet appel-là. Parce que c'est fort possible que ça puisse vraiment entrer dans cette dynamique. La dynamique de ce que le pape appelle l'écologie intégrale. prendre soin de notre maison commune, c'est prendre soin, il nous explique ça le pape, c'est prendre soin de toutes les relations qui nous lient les uns aux autres. Et puis aussi les relations qui nous lient à notre environnement. Avec le réseau, on voit bien que ce qu'on cultive, c'est des relations fortes, des relations locales. Mais aussi on cultive le fait de s'aider à faire les choses, quoi. De s'aider à réparer les choses, peut-être à certains moments, plutôt qu'à les remplacer, parce que nous on ne sait pas réparer, mais l'autre sait réparer. On développe aussi une culture du don, de la gratuité. Voilà, on rééquilibre dans une société où on tend à avoir une hégémonie du tout marchand, on rééquilibre un peu les choses. Ben, tout ça, c'est peut-être modeste, ça vaudrait le coup de le creuser aussi. Je ne le développe pas beaucoup, mais je pense que ça va vraiment aussi dans ce sens d'une écologie intégrale. Voilà. Alors, il y a vraiment là quelque chose d'une grande valeur pour la mission de l'Église, une mission qui annonce le royaume en œuvrant pour son avènement. On parlait tout à l'heure du paradis. Le paradis, c'est peut-être pour plus tard, mais le royaume, il commence dès ici-bas. Et donc, on peut se dire qu'il y a quelque chose, voilà, un germe de royaume qui est bien à l'œuvre ici. Voilà, quelques réflexions sur lesquelles on pourra un peu revenir. Et avant qu'on passe au temps des questions, ce que je vous propose, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, voilà, les témoignages, et puis là, maintenant, moi, je vous ai asséné avec 15 minutes d'un grand discours, quoi, même 20 minutes, j'ai même parlé peut-être plus longtemps. Prenons 2-3 minutes, vous discutez avec votre voisin, votre voisine, quoi, pour faire remonter une chose qui vous a marqué un peu plus. Et puis, à partir de là, on posera les questions. Voilà. On va faire un acte un petit peu de... initier un petit peu de fraternité, quoi, au moins se connaître les uns les autres. Voilà.
Voilà. Hein?
Mais du coup, on s'est dit que ça allait être bien aussi que ce petit outil. Parce que, une conversion qu'on va mettre sur le diocèse.
Voilà, je vois que les discussions vont bon train. Voilà, donc on va.
Chut. Marche pas votre truc.
Si, ça y est, ça marche, vous m'entendez, oui. Donc on va prendre le temps, on a une bonne demi-heure devant nous, pour pouvoir échanger, éventuellement poser des questions à l'un ou l'autre. Vous pouvez aussi poser des questions à Étienne Grieux, hein, qui sur des choses aussi sur lesquelles il pourrait répondre. Et puis, vous pouvez aussi choisir simplement de partager une réaction ou une petite expérience. Alors, pas de manière trop longue, hein, pour qu'on ait le temps d'échanger, mais ça peut être aussi ça, le fruit de la soirée, d'évoquer d'autres manières de faire ou d'autres choses qui sont proches. Donc, la parole est à vous.
Bonjour, je m'appelle Laurence Milon. J'ai le privilège et la joie de travailler sur le bateau Je Sers. Et nous participons à quelque chose d'extraordinaire, je trouve, par rapport à de nombreux réfugiés tibétains qui dorment dans la rue, malheureusement devant nous, et c'est assez insupportable. Et en mai 2015, deux familles ont décidé de faire quelque chose et donc d'accueillir un de ces Tibétains chez eux. En mai 2015. Et nous sommes en novembre 2016. Il y a 30 familles qui accueillent 70 Tibétains chez eux dans le secteur de Conflans, Morecourt-Andrézy. Là, je me dis, c'est forcément l'Esprit Saint souffle sur nous. Je pense, il y a 3 ans, avoir fait un appel dans une autre paroisse pour une famille, une femme avec 2 enfants qui était dans la rue, qui était accompagnée par nous. Je demandais en chair si quelqu'un pouvait prêter pendant 2 mois une chambre pour cette famille accompagnée et avec l'assurance que ce serait pour 2 mois. J'ai fait toutes les messes du samedi dimanche et je n'ai pas eu une réponse. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui souffle autour de ces réfugiés et de ces personnes et qui sont aussi en train de nous réunir, nous interpeller et nous faire donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà.
Merci. D'autres...
Bonjour, François Soulages. Je voudrais qu'on revienne sur l'aspect renouveau de la paroisse, parce que c'était ça le titre de la soirée. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre le réseau et la paroisse? Parce que c'est un peu le problème qu'on a les uns et les autres. Comment on fait que cet esprit de fraternité puisse irriguer nos paroisses? Nous, on a une paroisse assez importante, donc probablement comme vous. C'est quoi les ingrédients? Votre repas paroissial, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire avec le semblable. Alors comment vous avez fait pour qu'il y ait d'autres que nos semblables? Voilà, une petite question très pratique. Et puis une deuxième, vous me pardonnerez, c'est le secours catholique. vous avez parlé tout à l'heure des rapports entre le secours catholique et le réseau. En plus, vous faites de la distribution alimentaire, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est même de moins en moins. Quant au vestiaire, on essaie de faire des boutiques solidaires, mais enfin, c'est un détail. Mais tout de même, vous avez bien caractérisé, visiblement, le réseau, c'est pas le secours catholique. Alors, c'est ça que j'aimerais comprendre. En quoi c'est différent?
Voilà. Puis on peut ajouter sur cette question-là du lien avec la paroisse, une petite chose dont on discutait à la pause. Vous pourriez nous dire aussi un petit peu comment ça se passe aussi, de manière un tout petit peu institutionnelle, le lien entre le réseau et l'équipe d'animation pastorale, le enfin voilà comment ça se goupille tout ça.
C'est une grosse question. Ça, c'est évident quand on vous parle d'une capitalisation de tout un tas de talents, d'une mise en route de tout un tas de paroissiens, ça ne se fait pas tout seul. Donc, le père Étienne, tout à l'heure, vous parlait du noyau. Hein, du réseau. Le noyau du réseau, c'est donc une équipe de personnes qui acceptent quand même de prendre un tablier de service un peu plus lourd. Ça, c'est évident. Il faut avoir envie. Je crois que le plus gros ingrédient de départ, c'est ce désir. Parce que il y a des moments, c'est bien beau, c'est joli. On vous dit, il y a une action de solidarité qui a été posée. Oui, mais. La personne, si on veut continuer à tisser des liens, ça veut dire qu'on va l'appeler. Il faut trouver les moyens de la rencontre. Parfois, c'est des personnes aussi qui ne vont pas forcément toujours bien, donc ça demande du temps. Et du coup, heureusement, en noyau, on est plusieurs et c'est pas quelque chose en dehors de la, comment dire, du gouvernement. Alors, c'est pas une association, mais c'est quand même le curé de la paroisse qui est le chef, je ne sais pas comment il faut le dire, enfin, qui est complètement mouillé hein, dans ce réseau, même si au départ, quand il arrive sur une paroisse, parfois il ne connaît pas. C'est-à-dire que le réseau est antérieur à sa venue, il doit se familiariser, voir un petit peu de quoi ça retourne, et très vite, il comprend que on marche main dans la main, c'est pour la même chose. Il comprend très bien que les terrains sur lesquels le réseau va aller balayer sont des terrains sur lesquels une EAP, un curé n'a pas le temps d'aller. Il n'a pas forcément le temps d'aller sur le lieu de la prison, pas forcément le temps d'aller dans les maisons de retraite, pas forcément le temps d'aller enfin partout où il faudrait se trouver. Donc, à la fois un lien fort, et ça c'est aussi une difficulté, c'est-à-dire que le réseau, c'est toute une équipe, c'est des réunions, et ça nécessite d'être bien en lien avec son équipe d'animation pastorale. On a d'ailleurs Frédéric qui est là, qui est un peu notre lien avec l'équipe d'animation pastorale. Et c'est vrai que ça prend du temps aussi de voir comment on met en place certaines orientations dans l'année en cohérence avec la pastorale de l'année que le curé veut mettre en route. Quoi. Donc, tu parles un peu. Tu expliques qui il y a dans un noyau. Alors, pardon.
Vous parlez du secours catholique.
Oui. Alors, dans le noyau, en fait, là, actuellement, nous sommes 8, et avec tous des bénévoles, avec nos compétences et puis juste le fait d'être nous-mêmes. Voilà. On a quand même autour de nous des personnes qui sont des assistantes sociales, des médecins qui peuvent nous conseiller et nous aider dans nos démarches, des psychologues aussi. Qui sont sur la paroisse et qui nous donnent un peu de temps et qui voilà. Nous sommes aussi en lien avec les assistantes sociales de l'hôpital de Poissy qui nous contactent régulièrement pour demander de raccompagner un patient chez lui, souvent une jeune accouchée qui n'a pas les moyens de prendre un taxi et qui va prendre le bus avec un bébé de 2 ou 3 jours. Donc on va transporter. Donc voilà, donc on a des liens avec la société, si on peut dire, autour de nous, les services sociaux de la ville, la prison et les maisons de retraite, et aussi avec le secours catholique. Donc le secours catholique, on n'est pas le secours catholique, ça très clairement. Et on n'a pas du tout vocation à remplacer ou faire quoi que ce soit. Voilà. En fait, par contre, on est dans les niches dans lesquelles le secours catholique n'intervient pas forcément. Donc, dans les relations avec les personnes un peu plus privilégiées, le secours catholique nous appelle parfois pour faire des transports, pour poursuivre des personnes un petit peu chez elles, ou des choses comme ça. Et nous, en fait, on se renseigne auprès du secours catholique quand on est en relation avec des personnes qui sont en difficulté. D'abord, on les envoie directement au secours catholique si elles n'y sont pas allées, ou aux assistantes sociales des services sociaux de la ville, au CCAS. On n'a pas du tout vocation à marcher sur les plates-bandes de ce qui existe déjà, en fait.
Mais en même temps, quand on vous parlait tout à l'heure de la création future d'équipes fraternelles, c'est un jargon un peu spécial, mais c'est un chantier nouveau qui s'ouvre justement en partenariat avec le Secours catholique, qui est très intéressé pour voir, poser un pont, un grand pont entre la paroisse et le Secours catholique et d'ouvrir cet espace de partage d'évangile et de fraternité commun. Voilà.
Juste un mot pour répondre à la question aussi. C'est très différent allumer un feu et entretenir un feu, avec des questions qui sont difficiles autant pour allumer le feu que pour l'entretenir. Allumer le feu, ça suppose des personnes, quelques personnes. Dans notre cas, ça a été l'engagement fort d'un curé qui avait cette fibre-là, très fortement implantée, qui du coup a appelé en repérant des gens et en les appelant vraiment. On a parlé de Leïla tout à l'heure, pour notre communauté paroissiale. Un curé qui, alors qu'il avait une grosse charge de curé, tenait à avoir tous les jeudis matins sa présence au Secours catholique, où il dialoguait avec les personnes, et il sentait bien que ces personnes-là, il fallait qu'elles prennent toute leur place à l'intérieur de la communauté. Et que la communauté, sa communauté paroissiale, pouvait apporter des choses et qu'il fallait embarquer large la communauté paroissiale, alors que dans le Secours catholique, il y a des gens hyper engagés, mais souvent qui donnent, les donateurs, et ceux qui sont présents dans le Secours catholique, mais il faut que tout ça apprenne à se connaître. Et c'était une occasion formidable. Et donc, des personnes engagées, et ça a, j'ai envie de dire, commencé à mettre en place le barbecue. Et une fois que le barbecue est là, des charbons même un peu noirs peuvent tomber là-dedans et devenir rouges assez facilement. Et la difficulté ensuite, c'est d'entretenir le feu. Lorsque un curé change et est remplacé par un autre curé, qui n'a pas forcément la même fibre, qui doit lui aussi s'occuper de plein de choses, avec en général des troupes pastorales qui diminuent. Des gens qui s'essoufflent. Et il faut remplacer les tisons par d'autres, alors que des attachements à des personnes ont eu lieu, et que des personnes sont liées à Madame Machin, Monsieur Machin, mais ont du mal à avoir la même confiance avec celui ou celle qui succède, voyez. Et là, il y a là des risques de brisure, de continuité. Hein, et c'est tout ça qu'il faut arriver à faire fonctionner ensemble. Parallèlement à ça, par exemple le Secours catholique, on pourrait aussi parler des équipes Saint-Vincent de Paul, il y en avait sur notre lieu et finalement elles se sont essoufflées, il n'y en a plus vraiment. Et du coup c'est une fragilité parce que les équipes Saint-Vincent de Paul voyaient bien le lien intéressant qu'il pouvait y avoir avec le réseau. Le Secours catholique lui aussi a des vicissitudes, a changé des choses, a laissé par exemple la question de l'alimentaire. Et donc c'est difficile, vous savez bien, c'est des relations avec des personnes. Mais ce qui est fondamental, c'est ce que vous disiez, Père Grégoire, c'est de rendre possible cet embarquement de tout le monde à échelle différente, pour que chacun sente qu'ils peuvent faire quelque chose et entrer dans une chaîne.
Étienne, tu voudrais...
Je rajouterai encore
un
dernier élément. À partir justement de ce que vient de dire Jean, c'est qu'il me semble que souvent ce qui empêche que la fraternité ou la solidarité se déploie dans une communauté chrétienne, c'est le phénomène de la sous-traitance. C'est-à-dire que il y a l'équipe du Secours catholique qui est là, on s'en remet à elle, et au nom de ça, eh bien, il n'y a que les bénévoles du Secours catholique qui sont au contact des personnes en précarité. Voilà. Et ça, entre parenthèses, c'est une constante dans l'histoire de l'Église. Il y a toujours cette tendance-là. Et à mon avis, ce qui a été inventé par le réseau, c'est un moyen pour que beaucoup plus de monde puisse mettre la main à la pâte. Voilà. Et comment faire pour que beaucoup plus de monde puisse faire ça? Eh bien, c'est qu'il faut bien organiser les choses à l'échelle d'une paroisse. Parce qu'en fait, souvent, ce qui nous empêche de faire un premier pas, c'est l'impression que je vais être complètement mangé. Vous voyez, si jamais je vais me mettre dans des problèmes, des trucs, je m'en sortirai jamais. Et donc, au nom de ça, on ne fait pas le premier pas. Mais si vous avez quelque chose d'assez bien organisé qui vous explique, qui vous dit, voilà, vous pouvez faire ça et seulement ça, et on ne vous en demandera pas plus, et ça sera bien... On y veillera, quoi. Et bien ça permet à plein de gens qui, en fait, désirent faire quelque chose, mais n'ont pas une disponibilité énorme, quoi. Voilà. Donc, ça permet à toutes ces personnes-là de faire un premier pas. Voilà.
Voilà, alors peut-être une autre série de remarques ou de questions.
Je veux dire que j'ai retrouvé pas mal de choses qui ont été dites sur une expérience qui se trouve on a vécu dans le cadre d'une paroisse dans le 13e arrondissement à Paris et qui a été un peu déclenchée ou qui s'est trouvée être qui a provoqué la naissance d'un réseau, entre autres par l'arrivée des migrants et le fait qu'on a dû prendre en charge le problème. Alors, il se trouve que c'est maintenant la conférence Saint-Vincent de Paul qui fait office de noyau et qui, de fait, est un peu un carrefour où, voilà, on a les repas de fraternité, mais on a aussi des liens avec les autres paroisses, on a créé un réseau de donateurs pour des logements, il y a l'aspect... Et à ce moment-là, évidemment, ce ne sont pas les huit qui font tout, mais qui sont un petit peu la caisse de résonance et qui, souvent en lien avec le conseil pastoral, contribuent à organiser, ou du moins à déléguer l'organisation. Et ce que je trouve important aussi, c'est d'avoir, dans les relations entre associations, d'avoir une bonne vision de la subsidiarité et d'avoir une certaine porosité entre les deux. C'est-à-dire que parfois, un tel est membre de telle association et il est invité par une autre, et puis c'est à la frontière que se passent des tas de choses. Et je prends l'exemple de ce réseau pour les réfugiés. Eh bien, d'une part, on a dit on voudrait à la fois les accueillir, donc des repas, en même temps des cours de français, et puis en même temps un projet de logement. Mais un projet de logement, ça ne s'improvise pas pour accueillir des migrants qui ont le statut de réfugiés et puis qui sortent du centre d'hébergement. Eh bien là, on s'est adossé à une association de solidarité nouvelle pour le logement qui fait l'intermédiation locative, qui sont un peu pro là-dessus. Et du coup, qui appartient à quoi? Il y a un peu de flou dans les appartenances, et c'est pas plus mal. Et la troisième dimension, ce que je trouve très importante, c'est que du coup, on a éprouvé le besoin d'avoir un lieu de prière commun. Et il se trouve qu'on avait des prières de la conférence de Saint-Paul, on dit maintenant on va appeler ça prière de la miséricorde et on invite tout le monde. Et donc, une fois par mois, on a un lieu de rendez-vous, de prière, qui est ouvert à tous ceux qui sont, alors un tel est du Secours catholique, un autre est du CCFD, et on se retrouve et on partage une forme de prière qu'on a en commun. C'est la conférence de Saint-Paul qui le prépare, qui l'anime, mais c'est offert à tous. Et je crois que cette dimension de subsidiarité et de porosité est importante parce que c'est à travers cela que se fait le réseau et que, effectivement, on voit que chacun peut contribuer à sa manière. Moi, j'ai été étonné parce qu'on a un réseau de 120 donateurs pour ce projet de logement. Il y a des gens qui étaient heureux de me dire « mais je suis heureux de donner ». Alors, et on a mis la barre très bas, on a dit 5 euros par mois, et il y en a qui donnent beaucoup, 1000 euros. Vous voyez, donc on est sur des niveaux de participation qui fait que chacun peut contribuer. Et ça, je trouve ça très important qu'il n'y ait pas les militants et les autres, quoi. On est vraiment dans un... chacun peut donner à sa mesure.
Merci. Il y a quelqu'un? Voilà.
Au niveau du réseau, moi, ce que j'aime et ce que je peux témoigner, c'est qu'il y a des personnes qui sont âgées et il y en a une dame qui me dit « mais moi, je ne sais plus conduire et tout ». Et on a mis comme service, au niveau du confluent, la possibilité de garder des petits animaux. Et elle me dit « mais moi, je peux garder un petit animal ». Puis là, récemment, j'ai un monsieur qui était très participatif dans la paroisse parce qu'il avait toute sa santé. Et puis là, sa santé se dégrade. Et alors, il me dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour... Et il avait de la litière pour des chats. Ben, il était heureux de nous donner la litière. Ce que je veux dire aussi, le réseau, ça entraîne aussi des liens avec la mairie. Nous, la mairie, elle a, au niveau de Conflans, elle a des idées pour le sujet de l'isolement des personnes âgées, avec le réseau Mona Lisa qui se fait au niveau national. Et nous sommes là, invités à donner notre expérience sur le réseau. Et ils sont à l'écoute, et comme nous le sommes. Et puis enfin, ce qui est trop amusant, c'est que les offreurs qui ne sont pas appelés, ils nous rappellent à l'ordre. Ils nous disent, mais nous, on a dit qu'on voulait, puis on n'est pas appelés. Donc voilà, c'est ce que je veux dire.
Je vais poser un autre sujet, qui est la question du chômage. Je n'ai jamais, on n'en a pas parlé. Voilà, bon, on est quelques-uns aussi catholiques à se poser cette question, d'une manière un peu nouvelle. un complément à tout ce qui existe, bon, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes de bénévoles qui accompagnent des personnes en recherche d'emploi. Mais on se dit peut-être que dans une paroisse, voilà, c'est très théorique de dire ça comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en demande d'emploi, et aussi beaucoup de personnes qui peuvent peut-être être offreurs d'emploi. Et que en vous écoutant, je vous dis peut-être un réseau peut aussi être un peu pivot, et un lieu de rencontre, peut-être de mise en relation des uns des autres, et ce qui pourrait sans doute avoir un double intérêt, c'est à la fois d'aider un certain nombre de personnes précises à résoudre leurs problèmes de chômage, et de montrer que la lutte contre le chômage, c'est pas seulement aux institutions ou à l'État de le faire, mais chacun peut y contribuer, individuellement et en réseau local.
Alors je ne sais pas, sur cette question très concrète, est-ce que c'est quelque chose qui s'est posé dans le réseau à un moment d'avoir des actions autour de... ou des demandes, quoi?
Des demandes, oui. Vous voyez bien que c'est un problème énorme, que le problème du chômage, hein. On n'est pas... Non, j'ai envie de dire que ce serait quasiment un domaine un peu nouveau à développer plus. On a parfois des demandes, alors on arrive de temps en temps à proposer des services, mais c'est très ciblé. Par exemple, quand on sait que quelqu'un cherche du ménage, des gardes d'enfants, ça, on arrive, des personnes qui se proposent, on arrive à mettre en lien. Vous voyez, mais c'est quand même, ça reste des petites choses, hein. Mais certains de la paroisse qui ont bien compris ce sens, l'autre jour, proposaient, on avait quelqu'un qui proposait, qui disait dans ma boîte, on cherche un comptable. Est-ce que vous êtes vous connaissez quelqu'un en demande? Voilà. Mais on est tout à fait conscient que ce serait quelque chose à beaucoup plus ouvrir. Voilà. Après, chaque poste demande beaucoup de temps et c'est tellement énorme, c'est assez difficile de prendre ça à bras le corps et on fait que des petites choses, j'avoue, quand même, dans ce domaine-là.
Ce qu'on peut dire peut-être là-dessus aussi, c'est au début du réseau, c'est qu'on a vu aussi que certaines choses étaient prises en charge par des associations. Avec des vraies compétences, nous, autour de nous, par exemple à Poissy, il y a quelque chose qui s'appelle Acte 78, qui travaille autour de ça avec des vraies compétences. Et qu'on ne se voyait pas travailler tous les sujets, hein, tout bêtement. Hein. Mais que ce qui était fondamental, c'était de permettre aux personnes qui vivent le chômage et qui du coup vivent une certaine forme de solitude, d'isolement, de difficulté dans l'estime d'eux-mêmes, d'avoir le tissu nourricier qui permette de retrouver du punch, de retrouver du dynamisme. Et à travers les gens qu'ils rencontraient dans le réseau, de trouver des renseignements, des aiguillages qui permettraient à d'autres, hein, on évoquait la porosité tout à l'heure, etc., qui permettaient de les mettre dans les mains ou dans les lieux où on pouvait vraiment les aider. Mais que ce n'était pas directement ce qu'on pouvait faire. Même si je suis d'accord que c'est une... Je veux dire, c'est une communauté qui collectivement réagit par rapport au chômage, qui va pouvoir aider les personnes, mais que d'une certaine manière, il faut peut-être aussi éviter un risque qui est de vouloir faire tout quand on ne le fait pas bien. Et qu'il faut repérer, j'ai envie de dire, les associations qui ont des compétences d'être capables de faire ouvrir des portes, y compris institutionnelles, publiques, et que nous, on a plus la tâche de rendre possible cette relation heureuse qui remet en route, qui remet debout, qui trouve des relations. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle un réseau, quoi. Parce que les riches ont des réseaux. Les riches ont des réseaux. Les pauvres n'en ont pas. Ou en tout cas, n'en ont pas dans nos sociétés. Puisqu'on sait bien que dans d'autres types de sociétés, il y a des réseaux de pauvres et de fragiles. Comment ? Et ils ont peur quelquefois.
Voilà. D'autres sujets, d'autres réactions, témoignages ou questions ?
Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce que vous faites quand ce sont des demandes d'argent. Est-ce que vous avez un petit fonds qui vous permette de répondre à ces demandes quelquefois très urgentes ? Pour éviter des frais bancaires, par exemple, ou en attente de prestations
Quelquefois, des gens sont sans ressources parce qu'ils attendent leur retraite ou des choses comme ça.
Rapport à l'argent.
On n'a pas du tout d'argent, en fait. C'est très clair. On n'en veut pas. C'est pas notre rôle. On peut essayer d'accompagner vers une association, vers l'assistance sociale, mais nous, on ne peut pas, on n'a pas d'argent et on ne peut pas dépanner. Et c'est une chose qui est très claire, en fait.
Et c'est précieux.
Et voilà.
Ça peut paraître bizarre de dire ça, parce que très vite, quand vous êtes dans des lieux de précarité, arrive, c'est normal, cette question de l'argent. Et les gens ne comprennent pas toujours, dans un premier abord, que nous, quand nous disons non, il n'y a pas d'argent entre nous. Alors c'est un peu difficile à vivre au début, mais on renvoie au Secours catholique qui, eux, effectivement, ont de l'argent, hein, et peuvent dépanner. Mais l'argent, vous pouvez le tordre dans tous les sens, il est toujours celui qui pourrit la relation. Et vous ne pouvez pas commencer à établir un lien d'égal à égal s'il y a de l'argent, c'est terminé. Alors que sans argent, les gens comprennent bien. D'expérience, les gens comprennent bien que ce qu'on leur propose, c'est un rapport d'égalité de frères qui n'a rien à voir avec l'argent. Alors après, qu'on puisse ponctuellement, personnellement, individuellement décider d'aider la personne autrement qu'avec l'argent, oui, mais chez nous, c'est affiché pas d'argent.
Bien, moi je suis curé de paroisse et en fait... Tous les jours, nous avons des gens qui frappent à la porte et on ne sait pas forcément, on n'a pas toutes les compétences, hein, vous le savez. Et justement, on passe notre temps à mettre en lien, c'est ce que vous faites. Hein. Voilà, et sans argent. Alors tout à l'heure, je vous ai fait un petit signe. On peut quand même avoir de bons rapports avec l'argent. Et même dans certaines sociétés, la relation à l'autre commence par une relation commerciale. Donc voilà, hein, quand même. Hein. Donc on n'est pas exclusif, mais... En effet, alors moi, ma question, elle est toute simple. J'essaie de faire une espèce d'accorderie sur ma paroisse. J'essaie de faire des choses comme ça. L'accorderie, je ne sais pas si les gens savent ici ce que c'est.
Oui,
ça vient du Canada. Vous pouvez en parler?
Oui, expliquez. Oui.
C'est un concept canadien où, en fait, les gens se rassemblent régulièrement, des jeunes ensemble, et s'échangent des services. Mais ils s'échangent des services avec une espèce de petit chéquier où je vous donne un service, je vais faire de la couture chez vous pendant 2 heures, enfin comptez pas sur moi quand même, et puis après vous allez aider quelqu'un d'autre qui va faire autre chose, voilà, ça met en lien. Voilà. Il existe, ça se met en place à Paris, il y en a 2 ou 3 qui sont mises en place, des choses comme ça. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, et c'est tout ce qui est évident que vous n'avez pas dit, c'est comment la montée en charge s'est-elle faite, c'est un peu doucement, j'imagine, comme dans un jardin, comme du jardinage, mais il y a quand même des moments où on institutionnalise des choses, comment la pérennisation se fait, comment d'un curé à l'autre, parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas les mêmes personnalités, ça se passe, etc. Voilà, ça m'intéresserait. Voilà, c'est les toutes petites choses qui font que...
Juste... Racontez-nous un peu l'histoire.
Reprendre sur la première chose dont vous parlez, là, cet échange de bons, et qui se fait d'ailleurs parfois sur certaines mairies, on le voit ça un peu. Et on a eu justement une question au moment de l'année de la miséricorde, quelqu'un qui par mail nous disait, mais renseignez-nous, finalement, si dans votre réseau, c'est un échange de bons procédés, je te rends service, tu vas me rendre service, où est le don ? Parce que c'est un échange de services, disait la personne. Et ce qu'on lui a répondu, c'est que oui et non. Parce que dans le réseau, on accepte de dire « je te rends service, toi tu ne me rends rien ». Toi, tu ne me rends rien. Ce que je vais avoir peut-être en retour, ce sera de la joie, ce sera autre chose. Mais disons que moi, je te donne mes mains, et toi, un autre jour, tu vas rendre service, mais ce sera un autre, c'est pas à moi. Voilà. Donc, il y a une sorte quand même de petit décalage. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil.
C'est une sorte d'accorderie qu'on peut parler.
D'accord. D'accord, voilà. Non, mais je voulais dire ce tout petit déplacement qui est essentiel, qui n'est pas tout à fait la même logique. On peut agir pour un autre qui donnera pour autrement. Et ce n'est pas seulement pour recevoir soi. Voilà, exactement.
Alors après,
tu parles de la montée en puissance ?
Non, vas-y.
Dans cette montée en puissance dont vous parlez, j'ai envie de dire, ben, là, c'est de la nage, comment dire, du marathon, je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que vous commencez, il y a de l'exaltation, c'est beau, les gens répondent, ça marche. Ouais. Et puis après, plouf, voilà, ça descend d'intensité et on se dit, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça vaut le coup? On risque d'être même découragé et on l'est parfois. Et puis quand on l'est, il y a quelqu'un qui nous interpelle et qu'on se dit mais non, mais c'est beau, c'est bien, moi aussi je viens donner un coup de main. Alors j'ai envie de dire, la montée en puissance, elle ne nous appartient pas. Un, on l'a confiée dans la prière énormément. Deux, il faut accepter humblement que ça ne marche pas à certains moments. Et trois, il faut être un peu cinglé. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il faut vouloir y croire envers et contre tout. Et quand ça ne marche pas, au lieu de se dire on arrête, ça ne marche pas, c'est que je n'ai pas pris les bons outils. Et du coup, il n'y avait personne au repas. Est-ce qu'on arrête les repas? Mais non, on n'arrête pas les repas, c'est bien. On envoie des SMS. C'est parce qu'ils ne savaient pas, ils ont oublié, il faut qu'ils se sentent invités. Et on essaie de chercher des formes nouvelles. Voilà. Et du coup, en noyau, pourquoi un noyau? Eh bien, c'est ça. J'en parlais tout à l'heure de feu. Il faut un endroit où ça brûle. Et où on sent que l'autre, elle est là, elle l'aide. Puis quand on coule, elle dit, non. Alors moi, j'ai un truc génial à te dire. Et voilà. Et en communauté, c'est ça. Et en communauté, quand il y en a une qui vous dit « t'as pas vu ?» Parce que c'est ça qui est beau aussi. Il n'y a pas que la petite équipe du noyau. Quand quelqu'un dit « je viens vous dire, vous n'avez pas vu Georgette, on ne la voit plus à la messe. Est-ce que vous savez qu'elle avait été opérée ?»« Ah, non. Bon, je crois que ce serait bien qu'on lui envoie des visites. » et ça, et voilà. Et on se dit « ça vaut le coup. » Mais il faut être un peu fou, faut le vouloir.
Hein, vraiment. Juste concrètement, quoi, l'histoire, voilà. Comment ça s'est passé sur le timing? C'est, il y a eu une idée en un mois et puis une semaine après, il y avait le premier pas, ou c'est cinq ans après qu'il y a eu le premier pas? Voilà. Il y a quelques éléments.
Rapidement, sur la question quand même qui a été posée, il y a eu quand même assez vite, d'abord un principe de des personnes responsables et appelées clairement par le curé.
Avec quelqu'un d'un très grand charisme,
voilà.
Pour nous.
Avec une équipe qui s'est constituée et un principe de régularité de cette équipe. La question du temps qui fait que une réunion par mois dans laquelle l'équipe planifie, relie, évalue, etc. Quelque chose qui se met en place de manière stable. Avec quelqu'un, on l'a dit, de l'EAP qui est d'une certaine manière celui qui observe le noyau, se relie à la communauté du prêtre et donc de l'équipe d'animation paroissiale. Assez vite aussi, une charte ou des statuts, hein, une charte qui s'est mise en place avec la définition des activités. Une réunion à l'adresse de la totalité de la paroisse pour progressivement informer, etc. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place, assez vite quand même,
et
les premières.
Et une réunion hebdomadaire de travail.
Voilà. Et c'est cette régularité-là qui a permis de mettre en place les choses avec, encore une fois, la difficulté propre à nos communautés qui est liée à la diversité des curés qui, forcément, ont un engagement plus ou moins grand, comprennent plus ou moins bien. D'où, à mon avis, l'importance aussi d'une structure un peu diocésaine, par lequel on a parlé avec le confluent, mais par lequel un réseau des réseaux se met en place pour permettre une forme d'organisation et une forme de pérennité qui permet notamment, dans un presbytérium, à tout le monde d'avoir à peu près le même vocabulaire et de comprendre ce que c'est exactement que ces structures-là. Si l'évêque a discerné que c'était quelque chose de fondamental pour son diocèse.
Et de la communication, voilà, sur lesquelles on se heurte toujours, des panneaux dans les églises, un petit outil qui va arriver bientôt sur notre site paroissial, tout un PowerPoint pour présenter.
Un téléphone,
on a un téléphone, les gens peuvent appeler, ils ont ce numéro dans la collégiale, ce qui fait que on est interpellé par des noms baptisés aussi, hein, voilà, un téléphone, un site internet, un Facebook, enfin, voilà.
Voilà, je vois que l'heure tourne. Peut-être on va prendre une dernière intervention, François-Marie, puis après on sera obligé de
Frédéric. Vous abordez beaucoup la question du lien avec la paroisse à travers l'institution du curé. Je voudrais juste raconter une toute petite anecdote pour essayer d'approfondir autre chose que vous avez dit un petit peu. À Marseille, dans la paroisse dont je m'occupais, on avait essayé de monter un groupe de personnes de la rue. Et on s'était dit comment les faire participer à notre vie. Et on avait monté un petit groupe, on nettoyait un petit peu l'église, et ensuite on faisait un goûter et un partage de la Bible. Nettoyage d'église avec des personnes de la rue, ça se terminait, c'était plus sale qu'au début. L'équipe de nettoyage en charge officielle, qui était composée de gens tout aussi simples, je dirais, que les gens qu'on accueillait, ont dit « nous on arrête ». Le curé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « oulala, un nouveau truc, ça bouge quelque chose, on a arrêté ce groupe avec les personnes de la rue ». Une paroisse, c'est pas simplement un curé, c'est une chorale avec un espace, avec un précaré, etc., qu'il faut bouger. C'est, enfin, vous voyez, je vais pas multiplier les exemples, je pense qu'on les a tous un petit peu en tête. Vous avez parlé de réunions d'information, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu comment ça s'est passé concrètement avec les personnes? Sur les migrants, on voit dans nos paroisses, moi j'ai plus de patience pour accueillir quelqu'un qui est de la rue que quelqu'un qui vient avec ses options politiques radicales, vous voyez. Comment ça s'est passé concrètement dans ces relations-là de personne à personne?
Un dernier petit témoignage, oui. Allez.
Non, vas-y. Mm-hmm.
Je sais pas par quel bout le prendre, parce que ce que vous dites c'est important. Jean l'a dit tout à l'heure, le curé de l'époque, dans la mise en place de ce réseau, était très porteur. Donc il laissait un bel espace d'expression pour le réseau, ne serait-ce que dans l'interpellation à la communauté, dans la publicité, montrer ce qui venait de se mettre en place, montrer qu'on avait besoin, montrer que c'était qu'il en allait de la vocation baptismale de chacun que d'entrer là-dedans, montrer qu'une place était laissée pour l'animation de messe par des membres du réseau. Il y a eu des messes qui ont été animées où au moment de l'offertoire arrivaient toutes sortes d'objets. Celui qui faisait des transports, il arrivait avec une petite voiture. Celui qui faisait de l'alphabétisation, il arrivait avec son cahier. Celle qui faisait des courses pour un autre, arrivait avec son panier. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est vrai que ça a été cette belle place qui a rendu visible la chose. Parce que, on pourrait dire, dans une paroisse, beaucoup de gens disent ça, disent, mais nous, on le fait naturellement. Et c'est vrai, il y a plein de belles choses, plein de petits réseaux qui existent dans une paroisse. Après, on pourrait dire, pourquoi il y a besoin de ça? Pourquoi il y a besoin de réseau? Parce que ça rend visible ce qui est invisible. Ça rend visible l'appel à la diaconie. Et que même si, effectivement, petitement, on essaie chacun dans notre coin d'y répondre, quand c'est en fraternité et en communauté, ça devient quelque chose de grand. Alors, même quand on a dit ça, Jean en a parlé tout à l'heure, au gré de changement de curé, j'ai envie de dire, il y a aussi tout un tas de choses qui sont à recommencer. On a eu aussi, voilà, dans les écueils, à certains moments, la communauté qui disait « Eh, le réseau, la communication, on en a marre, quoi. Il n'y a que vous qui parlez tout le temps, ça va. » Donc, on est devenu muet. On s'est dit, c'est pas comme ça qu'il faut passer. On n'est pas des donneurs de leçons. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, on va essayer de tourner la fraternité dans la communauté et de proposer pour la fraternité, pour la communauté des choses. Et progressivement, ben, voilà, il faut accepter que ce soit un travail lent, un petit travail de fourmi. Mais quand même, c'est contagieux. On peut vous le dire, on le témoigne, ça c'est sûr, c'est contagieux. Vous mettrez un an, deux ans, trois ans, là nous, c'est quand même, il y a un historique. Hein. Voilà, il y a un historique et on rame encore à certains moments. Donc.
Voilà, on va conclure là-dessus. Rendre visible ce qui est invisible, ces trésors de désir de fraternité qu'on a en nous et dans nos communautés. Et puis, c'est contagieux. Je crois que c'est, voilà, on peut rester là-dessus. Merci beaucoup. Cette soirée, vous avez les... Merci tout particulièrement à vous, Jean, Christian, Victoria, Pascal, Christine et Étienne. Et vous avez les livres en vente au fond de la salle. Merci.
Merci. Ils n'ont même pas posé de questions. Ils ne voulaient pas savoir où tu étais pour venir casser la graine avec toi.
Bon.
Thank you.